Ce matin, on retourne dans 1 Corinthiens, on reprend notre série dans 1 Corinthiens. On a terminé notre série sur la vision de l'Église. Vous avez apprécié? Hein? Ça nous aide à voir un peu où on s'en va comme Église. Dieu t'appelle à travailler cette année sur ta spiritualité, c'est-à-dire marcher par l'Esprit, être en connexion avec Dieu quotidiennement. Dieu t'appelle à travailler sur ton hospitalité, d'une manière ou d'une autre. Recevoir à la maison, connecter avec des gens, développer des relations, saluer des gens le dimanche matin. C'est intéressant, tout à l'heure j'étais au cours biblique, je commence à discuter avec une dame. Elle me dit « Ah, j'habite dans tel coin sur la rive sud, je vois quelqu'un passer. » Il me semble que tu habites dans le même coin. Juste faites l'introduction, juste la présentation. Dieu t'appelle à grandir dans ton hospitalité si comme moi tu es un enfant de Dieu parce que Dieu est hospitalier. Et Dieu t'appelle à grandir dans la transmission. Transmettre ce que tu as reçu de Christ, ce que tu as reçu de Dieu à tes enfants, à la maison, ouvrir la Bible plus souvent, prier ensemble avec un collègue de travail qui a des questions. Peu importe, Dieu t'appelle à grandir dans ce domaine-là, dans un de ces trois domaines-là ou dans les trois, parce que tu es à l'espoir et ce sont des valeurs importantes pour nous. Et Dieu nous parle à travers l'Église, là où on s'en va, là où on veut grandir. Parce que les pasteurs ont prié semaine après semaine pour l'Église. Ils ont dit, Seigneur, cette Église-là doit ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Alors que Dieu nous inspire à travers la vision de l'Église, à travers les valeurs, nous prions tous les jours pour être une Église qui est émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ, parce que c'est notre carburant. C'est là qu'est notre adoration, c'est là qu'est notre passion. On veut revenir constamment à l'Évangile. On ne veut pas être motivé par des motifs religieux, vouloir simplement se conformer ou aller à l'Église parce que c'est dans mes rituels, c'est dans mes habitudes. Non, on veut que ça vienne du cœur, on veut que ça vienne d'un émerveillement, d'une passion. C'est notre vision, être émerveillé par l'Évangile de Jésus-Christ au service de la communauté. Et lorsqu'on a décidé d'aller dans 1 Corinthiens, la première lettre de Paul à l'Église de Corinthe, hein, on a commencé ça à l'automne, cette série-là, on l'a intitulée « Différente ». Pourquoi « Différente » ? Parce que l'Église est appelée à être différente. Et aujourd'hui, comme à l'époque de l'Église de Corinthe, la culture qui nous entoure vit une énorme confusion, d'énormes confusions. Pensez au mariage, pensez à l'identité sexuelle, pensez à l'orientation sexuelle, pensez à l'avortement. Pensez à est-ce que l'être humain, c'est autre chose qu'un animal? Est-ce qu'on est simplement des animaux? Si vous êtes au courant un peu des courants de pensée sur le spécisme, il y a toutes sortes de choses. Il y a tellement d'éléments où l'Occident est profondément confus. Et vous savez quoi? Bien, l'Église n'est pas toujours épargnée. L'Église peut vivre dans cette même confusion. L'Église de Corinthe avait la conviction qu'elle était très mature dans sa foi, très mature dans sa connaissance de Dieu. Et effectivement, elle avait beaucoup de connaissances, mais en même temps, ça ne se traduisait pas nécessairement au quotidien dans sa vie, dans son style de vie. Et donc, Paul va aborder des sujets très délicats avec l'Église de Corinthe, dans son éthique, dans sa manière de vivre, dans son style de vie. Et il lui dit, « Tu es appelée à être différente. » Pas parce qu'on est meilleur que le reste des hommes. Au contraire, on sait, et l'Église n'est pas parfaite. L'Église sera parfaite au retour de Christ. Amen. Elle ne sera pas parfaite avant le retour de Christ. Mais l'Église est appelée à être différente parce que Jésus a dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, comment l'assaisonnera-t-on? » Mais l'Église de Corinthe n'était pas suffisamment différente du monde qui l'entourait. Et nous sommes appelés à nous examiner dans nos vies parce qu'il y a certainement des domaines dans ta vie comme dans la mienne où Dieu dit, est-ce que vraiment tu es différent? Est-ce que vraiment tu es la lumière du monde dans tel domaine de ta vie? Est-ce que tu apportes de la saveur? C'est ça notre mission. Notre mission, c'est d'apporter la saveur de l'Évangile dans un monde confus. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, parce qu'on a goûté que Dieu est bon. Est-ce que tu as goûté que Dieu est bon dans ta vie personnelle? J'ai goûté que Dieu est bon quand j'ai connu Jésus-Christ. Et pour cette raison-là, j'ai quelque chose à apporter. Mais ça me demande de m'examiner, de regarder à ma vie, à mon cœur, à tous les domaines de ma vie pour dire, suis-je différent? Ou est-ce que ma vie s'est conformée à la confusion de notre époque? Que Dieu vienne nous éclairer, que Dieu vienne nous visiter alors qu'on On est encore au début de l'année 2025. On veut grandir, oui, dans notre spiritualité. On veut grandir, oui, dans notre hospitalité. On veut grandir dans notre transmission. Mais on veut surtout grandir conformément à la parole de Dieu parce qu'on aime Dieu. Et donc, on veut l'honorer, on veut le glorifier, mais on aime les gens autour de nous. Et quand l'Église se fond dans la masse, quand l'Église devient comme la culture environnante, est-ce que vraiment l'Église aime? Parce qu'aimer, c'est accepter que des fois, il faut déranger un peu. Il faut être différent, il faut assumer entièrement ces valeurs glorieuses et divines que Dieu nous a données pour apporter cette saveur de l'Évangile dans un monde confus, dans un monde qui a besoin de connaître la grâce de Jésus-Christ. On va aller ensemble dans la prière, on va écouter, on va lire ensemble la parole de Dieu, puis on fait un retour ce matin à 1 Corinthiens. Seigneur notre Dieu, on vient dans ta présence ce matin afin que tu viennes nous visiter, que tu viennes nous parler, que tu viennes nous rencontrer, que tu viennes nous interpeller. Seigneur, ma prière est simple, ne permets pas que qui que ce soit quitte ce matin sans avoir été visité par toi. Ma prière est toute simple, Seigneur, je crois en Dieu, je crois en ton Esprit Saint, Seigneur, et je te demande de venir nous visiter ce matin. Celui qui est chrétien depuis 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans, celui qui est nouvellement chrétien, celui qui ne l'est pas, celui qui cherche, celui qui écoute, celui qui s'est retiré dans son cœur, celui qui est ici parce qu'on l'a forcé, celui qui est ici mais qui aimerait mieux ne pas y être, celui qui vient ici préoccupé par toutes sortes de souffrances dans sa vie, peu disponible à entendre, tellement il y a de souffrances dans sa vie, celui qui est dans l'exaltation et pour qui tout va bien, viens tous, Seigneur, nous visiter ce matin. À travers le message, la parole, à travers la louange, à travers nos interactions ensemble, Seigneur, à travers notre hospitalité, Seigneur, que personne quitte ce matin sans pouvoir dire « Dieu m'a visité, Dieu m'a parlé ce matin ». C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen.
Bonjour. Alors, dans la lettre de 1 Corinthiens, nous sommes rendus au chapitre 7 et nous allons lire les versets 10 à 17, puis on fera un saut pour 29 à 33 dans la nouvelle édition de Genève. 1 Corinthiens 7, 10 à 17, puis 29 à 33. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Verset 29. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court, que désormais, ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme.
Merci, Esther. À cause de ma vocation à moi comme pasteur, j'ai pas une vie nécessairement ordinaire. ne m'en viens pas vous raconter ma vie extraordinaire, là. Mais j'aimerais ça vous partager un des aspects les plus extraordinaires de ma vocation comme pasteur. C'est que dans mon quotidien, je suis exposé régulièrement, beaucoup dans une semaine, à la vie de gens ordinaires comme toi et moi, qui font des choix extraordinaires parce qu'ils appartiennent à Christ. Et c'est ça que je vais vous partager très rapidement. Je vous donne une petite idée de ma semaine que je viens de terminer, d'accord? Cette semaine, j'ai rencontré un couple de Brésiliens qui ont quitté leur pays et qui commencent leur année de francisation ici au Québec à cause de Christ. J'ai parlé avec un groupe de personnes mariées ou surtout célibataires qui organisent des activités et des conférences pour aider des chrétiens à développer de riches amitiés à cause de Christ. J'ai parlé avec un couple qui se prépare à entrer, ça c'était la semaine d'avant, dans un pays interdit aux chrétiens. Je crois qu'ils n'ont pas d'enfants et je me disais en les écoutant, j'espère qu'ils n'en veulent pas parce que leur vie va être en danger régulièrement. J'ai parlé cette semaine avec une sœur dans la foi qui vit seule et qui a célébré ses 70 ans lundi, qui est heureuse de faire partie de la famille de Dieu. J'ai parlé avec une femme mariée qui a quitté son pays pour connaître Jésus-Christ. Cette semaine, j'ai parlé avec cette dame et qui attend depuis plusieurs années la réunification familiale avec son époux et qui prie tous les jours avec larmes pour qu'il puisse venir ici retrouver sa famille. J'ai parlé avec deux jeunes fiancés qui ont vu leur vie bouleversée par un accident d'autocar où le chauffeur est probablement responsable. Et je suis tellement édifié par leur attitude. Leurs vies sont profondément bouleversées. Hospitalisation, commotion cérébrale qui est compliquée. Voyez-vous, je vous ai partagé peut-être la moitié de ma semaine. Donc, ma vie à moi, c'est la vie de quelqu'un d'ordinaire comme toi et moi, mais je passe mes semaines à être en contact avec des gens ordinaires qui font des choix extraordinaires à cause de Jésus-Christ. Et c'est ça qui se passe dans nos vies lorsqu'on rencontre Jésus-Christ. Il y a une vocation qui vient superposer, qui vient englober toutes les vocations qu'on a dans notre vie. Moi, je suis époux, c'est une de mes vocations. Je suis appelé à prendre soin de mon épouse, à la servir, à l'aimer. Je suis père aussi, je suis pasteur, je suis citoyen canadien. Ça définit toutes sortes d'appels dans ma vie. Parce qu'avec ça viennent des responsabilités, des privilèges, mais des responsabilités aussi. Mais une vocation, les englobe toutes pour moi. Je suis chrétien. C'est ce qui me définit au plus profond de mon être. Je ne suis pas avant tout un homme blanc, un époux, un pasteur, un citoyen, un homme en santé ou malade. Je suis avant tout chrétien. Ça définit ma vocation première. L'apôtre Paul va répondre à toutes sortes de questions dans ce passage, très concrètes sur le mariage, le divorce, le fait d'être marié avec une personne non chrétienne, le célibat. Mais ce matin, je fais un choix important. Je vais frustrer quelques-uns d'entre vous parce qu'on couvre un très, très vaste passage où vous voudriez que je m'arrête sur plein d'éléments. J'ai fait un choix éditorial de couvrir un large passage parce que je craignais que le fil conducteur de tout ce passage-là se perde si on le faisait en quelques semaines. Et ce fil-là, c'est que si tu es comme moi, un chrétien, tu as une vocation éternelle. Tu as une vocation qui va durer dans l'éternité. Et c'est celle d'être marié à Christ. C'est celle d'être uni à Christ. C'est celle d'être en Jésus-Christ. Et voyez-vous, dans tout ce passage-là, Paul va traiter de toutes sortes de situations matrimoniales, conjugales, qui impliquent parfois beaucoup de souffrances, de la joie, des peines, toutes sortes de choses. Mais Paul revient toujours avec un élément. Toutes nos décisions dans ces contextes-là, quel que soit ton contexte, quelle que soit ta situation, doit être guidée par une vocation éternelle. Tu as des vocations temporaires et terrestres. Et cela définit beaucoup de circonstances dans ta vie, avec des joies, des peines, des fardeaux, des engagements, des privilèges, toutes sortes de choses. Mais tout ça est temporaire. et ce qui doit orienter notre manière de vivre toutes ces vocations-là quotidiennes qu'on a assumées. Le travail, l'école, le mariage, le célibat, peu importe. Être parent, être enfant de parents malades, il y a toutes sortes de choses. C'est tout des appels dans nos vies. Comme chrétien, je veux agir de manière responsable dans tous ces domaines-là. Tout ça doit être couvert sous notre vocation éternelle qui est celle d'être disciple de Christ. Et c'est à la lumière de cette vocation-là que je découvre comment vivre au quotidien dans les vocations qui sont devant moi. Et donc je fais ce choix-là ce matin de se tourner premièrement vers cette vocation. Au verset 17, il dit « Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans les églises. » Alors voici comment je résume l'exposé biblique de ce matin. « Que ce soit dans le mariage ou le célibat, chaque croyant est appelé à vivre son statut comme un privilège en Christ. » Et là, je sais que c'est déjà en train d'écorcher quelques personnes. T'en veux-tu de mon privilège, Yannick? Je ne sais pas, tu veux-tu du mien? Crois-tu vraiment que tu connais la part de souffrance qu'il y a dans ma vie? Crois-tu vraiment que tu connais les fardeaux que je porte? Viens marcher dans mes mocassins. Mais je sais que ça peut sembler insensible. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps de vous raconter à quoi peut ressembler ma vie à moi en rencontrant des gens ordinaires qui prennent des décisions extraordinaires. Parce que Dieu place des vocations devant eux, qui ont des enjeux, des engagements incroyables. Ce matin, on va voir ensemble que ce soit dans le mariage ou le célibat, chaque croyant est appelé à vivre son statut comme un privilège en Christ, dans la grâce et pour la mission, pour cette vocation éternelle. Une fois que je connais Jésus-Christ, je suis appelé à discerner ce à quoi Dieu m'appelle en ce moment. Et on parle spécialement ce matin du mariage, du célibat. On pourrait parler du travail, on pourrait parler de plein de choses. Mais dans ce passage-là, et Paul va parler plus tard d'autres choses, ici il nous parle de mariage essentiellement et de célibat. Premier élément que je veux souligner avec vous ce matin, un appel à discerner sa vocation selon la sagesse divine. Alors qu'est-ce que Paul nous dit sur le mariage dès le départ? On n'est pas dans le Cantique des Cantiques, là. On n'est pas comme dans la version totalement romantique ou tu n'es pas dans Éphésiens non plus. Tu sais, l'homme qui se donne pour son épouse comme Christ s'est donné pour l'Église. On n'est pas dans cet aspect-là du mariage. On est plutôt dans les difficultés du mariage. Et Paul nous dit, voici les instructions dans les mariages compliqués. Bien, il nous parle de mariage et de fidélité. Il nous dit surtout que le témoignage d'un croyant a un impact éternel. Paul exhorte les croyants mariés à rester fidèles, mais il met surtout en avant le privilège d'être un canal de grâce pour son conjoint. Et si tu es marié, tu sers Dieu en servant ton conjoint. Il va revenir là-dessus un petit peu plus loin. Mais le mariage, on le voit souvent comme un privilège, une union, tout ça. C'est un appel différent à servir le mariage. Tu veux savoir qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu? Regarde si tu as une alliance au doigt, puis tu as déjà une énorme réponse. Servir Dieu, ça veut dire servir Esther. Pour moi, je suis marié. Paul exhorte les croyants mariés à rester fidèles, mais il met surtout en avant le privilège d'être un canal de grâce pour son conjoint. Voyez ce qu'il dit concernant la séparation au verset 10 et 11. Et il est pas mal clair, honnêtement. Il est plutôt direct. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme, ce qui en revient à dire vice-versa. Effectivement, dans les Écritures, il y a très peu de raisons bibliques pour divorcer. Il y en a très, très peu. Jésus va dire dans le cas d'infidélité, d'accord, c'est possible. Jésus ne dit même pas de divorcer, mais définitivement, il dit c'est possible. Il ne dit pas celui qui est plus spirituel ne divorcera pas. Dans le cas non, on ne commence pas à tomber dans ces jeux-là. Mais il dit c'est possible, absolument. C'est possible aussi si ton conjoint non-chrétien t'abandonne à cause de ta foi, il y en a assez, il s'en va, t'es libre. Mais il y a très peu de raisons bibliques pour divorcer. Pourquoi? Je le mets en très, très simple. C'est parce que nos mariages terrestres sont là pour parler d'un mariage céleste. Et moi, je veux que Jésus n'ait aucune raison de me divorcer. Moi, j'en attends pas moins de Dieu parce qu'autrement, je veux dire, il y aurait toutes les raisons de divorcer de moi. J'y en donne tous les jours. Tous les jours, je pêche d'une manière ou d'une autre. Et donc, moi, j'admets à Christ aucune raison de divorcer. Mais Jésus nous dit, vos mariages terrestres sont là pour illustrer mon mariage avec vous. Donc, il y a très, très peu de raisons. Et ce que Paul va dire ici, c'est que parfois, il y a une séparation qui est là, qui est réelle. Bien, il dit même dans ce cas-là, qu'elle reste seule ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Vous savez que ça arrive qu'on encourage fortement une séparation, les anciens, dans les cas de violence conjugale, définitivement. Définitivement. Ça ne veut pas dire qu'on pousse les gens au divorce comme ça. On attend de voir, est-ce que la personne est chrétienne? Est-ce qu'elle va abandonner? Est-ce qu'elle va quitter? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, le mariage, c'est du sérieux. Et notre société est confuse. Parce que notre société pense que le mariage, c'est la célébration ultime de ton âme sœur que tu as rencontrée, avec qui tu as vécu pendant 15 ans. Tu t'es acheté une maison, tu dis, si on est capable de dealer avec une maison ensemble, on va peut-être avoir des enfants ensemble. Un, deux, ça commence à faire beaucoup. Puis après ça, bon, on se mariera. Confusion. Non, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Quand j'ai un couple qui vient me voir et qui me dit « je suis en train de vivre le pire », avec beaucoup d'écoute, après avoir pris le temps d'écouter, je vous l'assure, je vais quand même dire « est-ce qu'on est encore dans le contrat si on est dans le pire? » Ça me semble être le cas. Donc, il y a très peu de raisons. Et je sais que certains d'entre vous, vous souffrez. Je vous rencontre, je prends du temps avec vous, je pleure avec vous. Vous êtes venus dans mon bureau, vous savez combien je souffre avec vous, je prie avec vous. Les anciens vous aiment à travers vos souffrances, vos douleurs. Mais Paul dit, le mariage est là pour être un canal de grâce envers ton conjoint. C'est ta vocation d'aimer et d'être une représentation de Christ. Et Christ est extraordinairement patient avec nous. Amen. C'est pas comme s'il avait tapé le deal du siècle en se mariant avec moi, là. On s'entend? Non, quand on donnait des cours de préparation au mariage, Esther et moi, je m'évertuais de convaincre les deux conjoints qu'ils tapaient un citron. OK? Je veux juste être clair, tu pognes un citron. Ça veut dire que c'est pas comme le top, vous comprenez? Mais Jésus a tapé un méchant citron avec moi. Et il m'aime. Il dit, Yannick, on est encore dans le contrat, là. Je sais que tu es décevant, mais on est encore dans le contrat. C'est bon. Pour le meilleur et pour le pire, Yannick. Merci, Jésus. Je te donne des raisons tous les jours de me quitter, mais tu ne me quittes pas. C'est extraordinaire. Puis Paul va dire pour celui qui est marié ou celle qui est mariée avec un non-chrétien. Il dit, car sais-tu si tu sauveras ton mari ou sais-tu si tu sauveras ta femme? Mais non, reste. Oh, je suis tellement béni comme pasteur. Ça va faire 30 ans bientôt là, que je sers ici. Je connais vos histoires souvent, vos mariages tellement difficiles. Et il y a tellement de personnes qui m'édifient à travers les années par leur fidélité avec un conjoint, une conjointe non chrétien. Et ce n'est pas que le chrétien est parfait, là. On s'entend? Non. Première qualification pour être chrétien, c'est « je suis un citron », je viens de le dire. D'accord? Donc, c'est pas que je pense que vous êtes sans péché, là, les chrétiens, dans vos mariages avec un conjoint non chrétien. Mais tu sais, quand tu ne peux pas communier avec ton conjoint dans ce que tu as de plus intime, ta communion avec Dieu, tu ne peux pas partager ça, je mesure, les amis, votre souffrance. J'entends la souffrance qu'il y a là. Et je suis tellement édifié par la fidélité d'hommes et de femmes qui sont dans un mariage avec un non chrétien et qui l'aiment. Avec des valeurs des fois complètement opposées à toi, qui va te demander des sacrifices extraordinaires. Extraordinaires. Le mariage, ce n'est pas simplement un engagement, c'est une opportunité précieuse d'incarner l'amour de Christ et d'être un témoignage vivant de l'Évangile. C'est ça le mariage. C'est littéralement seulement, et c'est glorieux. C'est juste que la gloire ici-bas, c'est souvent sale. C'est souvent imprégné de souffrance. Mais c'est glorieux. C'est glorieux comme un champ de bataille où le juste gagne. C'est sanglant, un champ de bataille. Mais c'est glorieux si le juste gagne. L'appel de chacun dans son contexte. Voyez-vous, Paul nous dit qu'on a tous des vocations particulières. Si tu es comme moi, chrétien, tu as une vocation éternelle en Jésus-Christ. Tu connais l'issue de l'histoire, tu connais la fin de l'histoire, c'est le party total. C'est pour ça que lorsqu'un chrétien meurt, on parle de promotion. Hein? Il a été promu dans la gloire. C'est fini, là. C'est fini les souffrances. Donc, on connaît l'issue de l'histoire. Mais on a tous des vocations particulières et qui est précieuse. Paul rappelle que notre état de vie n'est pas un obstacle ni un fardeau, même si c'est comme ça que c'est possible qu'on le vive. Actuellement, je vis ma vocation, une de mes vocations, plusieurs de mes vocations, comme un fardeau, un obstacle. Mais non, c'est un privilège qui a été voulu par Dieu. Il dit au verset 17, « Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. » On a fait toute une série, un cours sur la providence de Dieu. Nous croyons dans la souveraineté de Dieu. Dieu a pourvu des moments de joie, des moments de peine, des bénédictions et des épreuves. Dieu a pourvu. Dieu a pourvu à Christ sur la croix pour mon salut. Dieu a pourvu aux joies et aux peines de demain aussi. Dieu a pourvu. L'appel de chacun dans son contexte. Être appelé par Dieu, c'est un privilège inestimable. Et c'est dans cet appel-là que je vais trouver ma joie et ma mission. Donc, quel que soit ton statut actuellement et quel que soit l'état dans lequel tu vis, un célibat qui est douloureux, un célibat qui est célébré parce que tu as plus de liberté pour servir Dieu, on y vient, un mariage qui est difficile, un mariage qui est heureux, il y a une vocation qui est plus grande que celle-là et elle vient instruire comment est-ce que je vis dans chacune des vocations de ma vie. Le travail, l'école, tu es étudiant, c'est ta vocation actuellement, c'est une de tes vocations. Tu es enfant, c'est une de tes vocations. Mais si tu es chrétien, c'est la vocation qui instruit toutes les autres. Parce que c'est en étant sécure et en paix dans ma vocation en Jésus-Christ, j'appartiens à Christ, que je vais trouver tout ce qui est nécessaire pour vivre toutes les vocations que j'ai actuellement dans ma vie. C'est là que je vais trouver la sagesse, le repos, la paix, le calme, la sérénité, pour savoir comment réagir, comment me comporter aujourd'hui, dans ce que Dieu m'a donné. Premier élément, un appel à discerner sa vocation selon la sagesse divine. Deuxième élément, célibat et mariage, choisir avec sagesse en fonction de la mission. Donc là, il y en a qui, ça va être nouveau pour vous, vous allez dire quoi? Attends un peu, on choisit de se marier en fonction de la mission. Absolument. Et si tu ne le fais pas, ça va être encore plus difficile dans ton mariage. Je l'ai déjà partagé. Hein. Si vous n'êtes pas marié, là, j'ai un conseil à vous donner. Demandez à Dieu de vous donner un conjoint, une conjointe, qui va aimer plus Jésus que vous. Demandez ça à Dieu. C'est mon seul conseil. Quand je cherchais ma future épouse, jeune chrétien, 19 ans, je dis, « Seigneur, donne-moi une femme qui va toujours aimer Christ plus que moi. » Ça va être l'assurance qu'on va s'en sortir, que ça aille bien ou que ça aille mal. Vous savez quoi? Dieu a honoré ma prière. Dieu a honoré ma prière. Les avantages du célibat dans la mission. Donc, je me suis marié pour la mission, hein, pour de vrai. C'était pour servir Dieu. J'ai déjà raconté souvent à l'église, mon épouse priait pour marier un pasteur. Puis au début, elle priait pour marier un pasteur qui joue de la musique. Puis après, elle priait pour un pasteur qui chante juste. Puis après, elle priait pour un pasteur qui aime la musique. Elle a eu ce qu'elle a demandé. Mais elle priait pour marier un pasteur parce que Stan voulait se marier pour la mission. Les avantages du célibat dans la mission, ils sont nombreux, les amis. Paul ne parle pas du célibat comme un sacrifice à supporter. Et certains d'entre vous, c'est comme ça que vous le vivez. Peut-être parce que vous êtes appelé au mariage, peut-être parce que vous n'avez pas embrassé votre appel. Les deux choses sont possibles. Et je suis sensible à ce que vous vivez. Je me suis investi pour essayer de pallier puis que Dieu pourvoie des amitiés inter-églises et tout le tralala. Donc, je suis très sensible à ce que vous vivez. Mais Paul ne parle pas du célibat comme un sacrifice à supporter, mais comme d'une liberté offerte pour servir pleinement Christ. Verset 29, « Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais, ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas. Paul n'est pas en train de dire « comporte-toi comme si tu n'étais pas marié », mais comprends que le temps urge pour l'avancement du royaume de Dieu. Comprends que les temps sont mauvais, et il l'était particulièrement à cette époque-là. En fait, un des plus grands pièges pour l'Église, c'est quand l'Église est absolument aimée par la culture générale. Je sais là, qu'on est là, puis on se dit, on est en Occident, puis on prend du recul, puis les chrétiens, c'est comme la religion vraiment pas cool. T'sais. Tous les problèmes qu'il y a dans la culture occidentale, c'est de la faute du christianisme. OK, je comprends, et ça fait peur, je comprends tout ça. Il y a plein d'endroits où on recule, tout ça. Il y a quelque chose de pire que ça. C'est si toute la culture trouvait que les chrétiens sont vraiment extraordinaires, ça voudrait dire que l'Église ressemble parfaitement à la culture. Parfaitement à la culture. Plus de saveur, plus de goût, plus de lumière. On s'est parfaitement intégré à cette culture confuse et sans Dieu. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Et je vous dis, le temps est court. Le temps est court parce que bientôt, tu vas aller rencontrer le Seigneur. John Piper avait donné une image une fois. John Piper a comme une espèce de sarcasme des fois, là, tellement. Il parlait de cette vision que certains ont de la retraite. Et je vous dis, ce n'est pas les gens à la retraite chez nous qui pensent comme ça, parce que une personne à la retraite, c'est une personne à temps partiel à l'Église. Là, okay? Les retraités ici, ça n'a pas de bon sens. C'est juste extraordinaire. Mais il parlait de ces gens, tu sais, qui rêvent de la retraite pour pouvoir juste comme passer toute leur vie en vacances puis tout ça. Puis il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas marcher sur la plage, tu vas ramasser des cailloux sur la plage, puis quand tu vas arriver devant Jésus, tu vas dire, regarde Jésus, les beaux cailloux que j'ai ramassés. Le temps est court, les amis. Le temps est court parce que les âmes ont besoin d'entendre parler de Christ. Le temps est court parce que les Québécois ne connaissent pas Jésus. Et ça ne s'en va pas vraiment dans la bonne direction, là. C'est pas comme si notre société était moins confuse, puis on disait, wow, ils ont des valeurs qui deviennent de plus en plus chrétiennes. C'est incroyable. Et je l'ai mentionné la semaine dernière, je le répète encore une fois, c'est comme un paradoxe incroyable. Oui, les boomers ont été très, 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 très fâchés avec le christianisme, et je le comprends parfaitement. Ils ont quitté une église, une religion qui donnait une version du christianisme qui avait... C'était super opprimant, puis tout ça. Je comprends tout ça. Mais les jeunes générations ne sont pas fâchées après le christianisme comme ça. Ils sont ouverts. Les chrétiens parlent moins. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est quoi? Il faut qu'on ait peur pour commencer à parler de Jésus? Il faut qu'il y ait des obstacles? Le temps est court, le temps est court, les amis. Et Paul dit que celui qui est célibataire est libre de servir la mission. Le célibat n'est pas une privation, mais une opportunité précieuse de se consacrer entièrement au royaume avec joie. C'est peut-être pas ton appel, même si tu es célibataire. Peut-être que tu languis après le mariage. Je respecte ça à 100%, on va en parler un peu plus loin. Mais c'est une réalité quand même. Quand tu es marié, tu veux savoir c'est quoi servir Dieu. C'est ça la réalité. Et c'est glorieux, mais c'est ça la réalité. Sam Albury, un de mes célibataires préférés. Vous irez lire, Sam Albury est incroyablement édifiant. Il dit, « Si le mariage nous montre la forme de l'Évangile, le célibat nous en montre la suffisance. » L'Évangile est suffisant. Le mariage nous montre la forme de l'Évangile à cause d'Éphésiens 5. Hein? « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » S'est livré lui-même pour elle. Dans le mariage, on veut illustrer l'Évangile. L'amour de Christ pour son Église, la relation entre l'Église et Christ. Mais il dit, dans ce cas-là, le célibat montre la suffisance de l'Évangile. Et j'ai pensé vous faire une liste de célibataires dans l'Église qui m'édifient depuis des décennies. Souvent, ces gens-là sont plutôt timides et humbles. J'ai décidé de ne pas le faire. Mais mes amis, que vous êtes édifiants. Ceux qui sont appelés à ça. Certains d'entre vous êtes célibataires et vous êtes appelés au mariage. On y vient dans un instant. Mais le choix que je vais faire va être éclairé par une passion pour la mission. Parce que vois-tu, le mariage, nous dit Paul, à l'opposé, est un engagement béni et sanctifiant. Béni et sanctifiant. Paul ne dit pas que le mariage est un poids, mais qu'il est une belle responsabilité qui façonne le disciple de Christ. Au verset 32-33, il dit « Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. » Pas du monde dans le sens de ce qui est opposé à Dieu. Mais tu veux pourvoir, tu es là pour prendre soin. Et c'est clair, c'est vrai, c'est évident. Je ne peux pas me coucher le soir en paix si mon épouse estime que l'Évangile n'est pas vécu à la maison. Et donc, vivre l'Évangile au quotidien, tous les jours, à chaque minute, à chaque seconde, devient ma priorité parce que je suis marié. Et dans un sens, il n'y a pas de pause à cet exercice-là. Vois-tu? Parce que cette relation-là est celle qui commande, celle qui donne le baromètre de ma marche avec Christ. C'est exigeant. C'est extraordinairement sanctifiant. Dans le sens qu'on est façonné pour ressembler à Christ. Le mariage est un don de Dieu qui nous façonne à l'image de Christ. C'est une école de sanctification et d'amour sacrificiel. Tim Keller dira « Le mariage ne fonctionne que dans la mesure où il suit le modèle de l'amour désintéressé de Dieu en Christ. » Amen. C'est vrai. C'est vrai. Désintéressé, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de sacrifices à faire. Je mets de côté mes intérêts. Quand je me lève chaque matin, pour moi, servir Dieu, c'est servir mon épouse. C'est ça que ça veut dire. Et là, oh, c'est tellement beau, hein, il sert son épouse. Oui, mais mon cœur, il ne veut pas toujours, lui. Mon cœur, souvent, il dit non, pas encore. Pas là, pas maintenant. J'ai servi toute la journée, je rentre à la maison. Non, c'est assez. Et il me semble que j'en ai fait assez, mais ce n'est pas apprécié. Non, mais tu sers Dieu en servant ton épouse. Tu as besoin d'un bravo? Jésus est là pour te dire bravo, tu es fidèle. Je sers Dieu en servant mon épouse. C'est juste la satisfaction de Dieu que je cherche. Là. J'ai pas besoin que mon épouse me dise, « Oh, Yannick, écoute, toutes les femmes devraient avoir un mari comme toi. » Non, je suis en train de servir Dieu en servant mon épouse. C'est Dieu que je suis en train de servir en servant mon épouse. Si elle me dit, 6 sur 10. Elle peut avoir tort, elle peut avoir raison, mais je suis en train de servir Dieu. Fait que je prends ça et je dis, bon, Seigneur, c'est du 6 sur 10. Qu'est-ce que je peux faire demain de mieux? Je suis en mission. Ma mission, c'est quoi? C'est de porter la saveur de Christ dans ce monde. Si tu es marié, ta mission commence là. Parce que ton témoignage repose sur ça, auprès de tes enfants, auprès de tes proches, autour de toi. Enfin, dernier élément. Est-ce que Dieu t'appelle au mariage ou au célibat? C'est toi qui dois prendre cette décision-là. Si tu es marié, tu as la réponse. Une décision assumée avec sagesse et reconnaissance. Ce que Paul fait dans cette lettre-là, il dit « Les temps sont durs, à l'époque c'était terrible ». En plus, il y avait plein de persécutions. Fait que Paul dit, écoute, je vous ai mentionné au début du message, dernièrement, j'ai parlé avec un couple qui se prépare depuis des années pour aller dans un pays fermé à l'Évangile, complètement fermé. Ils s'en vont là mariés. Je me dis, bon, OK, ils vont pouvoir se supporter l'un l'autre jusqu'à temps qu'il y en ait un des deux qui soit en prison. Parce qu'après ça, je veux dire, toute leur préoccupation, ça va être l'autre qui est en prison. À quoi est-ce que Dieu t'appelle? C'est toi qui le sais. C'est toi qui dois le discerner. Une décision assumée avec sagesse et reconnaissance. Ce que Paul nous dit, c'est que si t'es célibataire et que tu crois être appelé au mariage, que Dieu te bénisse. Sois conscient. Pourquoi tu veux te marier? Et gloire à Dieu si tu te maries. Amen! J'en veux des mariages, je veux des bébés qui courent partout ici. Moi. Amen! Mais si tu envisages le mariage parce que tu as peur d'être seul, ça se peut qu'une fois marié, tu souhaites être seul. Et si tu viens me voir et tu dis, écoute, c'est terrible comme je souffre, qu'est-ce que je vais te dire? Après t'avoir écouté beaucoup. Hein? Pour le meilleur et pour le pire. Est-ce qu'on est encore dans le contrat? C'est juste qu'on est dans pour le pire, c'est ça? Jésus vit ça avec moi tous les jours. Il ne m'a pas encore rejeté. L'équilibre entre la liberté et l'engagement. Paul rappelle que chaque croyant peut choisir en paix de se marier ou de rester célibataire. Mais on veut faire ce choix-là en étant conscient de nos vocations, en étant conscient que la vocation qui nous donne la paix, c'est celle d'être à Christ. Si tu te maries parce que tu veux combler un vide, tu vas épuiser ton conjoint ou ta conjointe. Ça va être extrêmement lourd. Si tu n'es pas complet avant d'être marié, attends avant de te marier. Attends avant de te marier. Sois content en Jésus-Christ. Sois content en lui. Parce que l'appel du chrétien, c'est de se marier pour la mission, d'être célibataire pour la mission. Parce que toutes nos vies, toutes nos vocations sont vécues à la lumière de cette vocation première. J'appartiens à Christ. Je suis la lumière du monde, je suis là pour apporter de la saveur dans le monde. Que je sois marié ou que je sois seul, que mon mariage soit heureux ou difficile, c'est ça ma vocation. C'est d'apporter de la saveur dans un monde confus. Et je peux le faire marié ou seul. Paul appelle chaque croyant à choisir en paix sa décision. L'union à Christ est notre vraie sécurité. Marié ou célibataire. Vous savez, on a dit... Une de nos valeurs à l'espoir, c'est la spiritualité. Est-ce que tu envisages ton statut matrimonial, comme on dit, de manière spirituelle? Est-ce que c'est avec Dieu que tu l'envisages? Marié ou célibataire, heureux ou malheureux, est-ce que c'est dans une recherche de Dieu, dans la prière, que tu dis, « Seigneur, que veux-tu pour moi? » Ou est-ce que c'est rempli d'anxiété, de stress, de... quel que soit ton statut, hein, parce que je veux dire, ça se classe pour tout le monde, là, ce que je viens de dire là. Nous voulons être une église spirituelle. Ton célibat ou ton mariage va se vivre par la grâce de Dieu si tu marches par la puissance de l'Esprit. Et si tu n'envisages pas actuellement ton état actuel, quel que soit ton appel pour demain, ton état actuel, dans le contentement et dans la paix, c'est qu'il manque de prière dans ta vie. Il manque de prière dans ta vie. Il manque de prière parce qu'on va vers les Écritures pour avoir la perspective de Dieu, puis après ça, on va chialer notre vie devant Dieu dans la prière. On dit, je sais c'est quoi ta perspective, mais je ne la vis pas, Seigneur. Je ne la vis pas, Seigneur. Et on s'en va gémir devant Dieu, comme le psalmiste le fait tellement de fois, jusqu'à ce que nos lamentations se transforment en louanges. Et que maintenant on dise merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. C'est ta provision pour aujourd'hui. C'est suffisant parce que j'ai tout en Christ. C'est suffisant parce que j'ai tout en Christ. Le verset, à mon avis, le plus important du passage, c'est le verset 22. Paul va dire, j'ai pas abordé la question de l'esclavage, hein, je trouvais que c'était peut-être moins applicable nécessairement aujourd'hui. Bien qu'il y aurait des choses à dire. Au verset 22, il va dire « L'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. » Il dit « Tu es esclave, tu es dans une situation d'esclavage, mais dans le fond, tu es libre parce que tu appartiens à Christ. Si Dieu veut te sortir de là, il va te sortir de là. Tu as tout en Christ. Le regard des autres n'est pas ce qui détermine qui tu es. » Puis ensuite, il dit « De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. » Donc, l'esclave qui est chrétien est libre, et l'homme libre qui est chrétien est serviteur de Christ. Parce que c'est notre vocation en Jésus-Christ qui définit qui nous sommes. Ce n'est pas mon statut, ce n'est pas mon quotidien, ce n'est pas l'état actuel, ce n'est pas les épreuves. Contexte de travail super difficile. Une des choses qui me passait par la tête lorsque j'étais en train de méditer sur ce texte, puis voir, c'est qu'on est constamment tenté par le désir de comparaison avec les gens autour de nous. Tu es à l'école, tu vas comparer tes notes scolaires. Ce n'est pas pour ça qu'il y a des notes qui sont données, c'est pour que tu réussisses. Tu es au travail, on va se comparer avec les autres. Tu arrives dans le stationnement, tu regardes les voitures, tu dis « ouais, pouette, pouette, hein? » On se compare avec les autres. Mais ta voiture ne t'a pas été donnée pour définir ta valeur. Ça t'a été donné pour te rendre à job. On est tellement tenté par ça. Puis là, on regarde de l'autre côté de la clôture, puis on dit, « Ouf, le gazon est beau. J'aimerais vivre sa vie. » Tu ne connais pas sa vie, mon homme. Tu ne connais rien de sa vie, sérieusement. Tu ne sais pas les épreuves qu'il vit et tu ne sais pas celles que Dieu lui réserve pour demain. Ce que tu sais, c'est ce que Dieu t'a donné. Et ce que Dieu t'a donné, c'est suffisant. Parce que Christ est en toi et que tu es à Christ. Si tu es esclave, en fait, tu es libre parce que tu appartiens à Christ. Et on aura beau dire n'importe quoi, ce n'est pas ça qui définit ta valeur. Je suis chrétien. Ce qui définit ma valeur, ce n'est pas mon statut, les amis. Ce n'est pas que je suis un homme blanc, marié, dans une église moyenne, béni, en santé, avec des enfants, merveilleux. Ce n'est pas ça qui définit qui je suis. Ce que je suis, c'est chrétien. Parce que ça, c'est ma vocation éternelle. C'est celle que personne ne peut me ravir. Et dans toutes les vocations que Dieu place dans ma vie, et dans mon cas, c'est le mariage, c'est d'être père de deux enfants. J'entre dans ces vocations-là tous les jours à la lumière de ma vocation éternelle. Je demandais aux musiciens de venir me rejoindre à l'avant. Que ce soit le mariage ou le célibat, chaque croyant est appelé à vivre son statut comme un privilège en Christ. Et je sais, quand je dis ça pour certains d'entre vous, c'est Yannick, c'est tellement insensible ce que tu dis, tu comprends pas ma souffrance. Je connais peut-être pas ton histoire personnelle, mais pleurer avec des gens qui souffrent, c'est ma vie. C'est ma vie et je le fais avec énormément d'amour. Je sais ce que tu vis, même si je connais pas ton histoire personnelle à toi. Et toi, tu connais pas la mienne. Tu ne connais pas la somme de mes souffrances à moi. Et pourtant, je le dis, mariage ou célibat, chaque croyant est appelé à vivre son statut comme un privilège en Christ, dans la grâce et pour la mission. Est-ce qu'il y a des vocations dans ta vie, que ce soit ton statut marital ou toute autre vocation, que tu ne vis pas pour la mission? Mais c'est peut-être là que le bât blesse. Peut-être que tu es tellement fondu dans la culture, tu es tellement comme la culture environnante, que ta mission à toi dans la vie, c'est de te réaliser. Tu dis, je suis chrétien, mais tous les jours, ce que tu démontres, c'est que tu veux t'accomplir. Comment Paul peut dire à l'esclave, si tu es esclave et que tu es chrétien, tu es en fait libre, tu es un affranchi? C'est que, vois-tu, quand tu es chrétien, tu ne cherches plus à te réaliser. J'ai rien à accomplir pour définir ma valeur. Je suis aimé de Dieu. Je suis un co-héritier avec Christ. Je suis un enfant de Dieu. Je fais partie de la maison de Dieu. Christ est en train de me préparer mon duplex au ciel. Je n'ai pas besoin de m'accomplir, de me réaliser. Toutes mes vocations ne servent pas à m'accomplir. Ça, c'est ce que la culture t'enseigne. Les vocations que Dieu donne dans ta vie, que ce soit d'étudier, de travailler, d'être marié, d'avoir des enfants, d'être célibataire, peu importe, c'est des opportunités de servir. C'est ça nos vocations. On est des serviteurs. Et donc, l'homme libre est esclave de Christ. Moi, je suis libre de servir dans toutes ces vocations que Dieu m'a données. Ce n'est pas là pour que je me réalise. Alors, si tu as 20 ans, 25 ans, 30 ans, puis tu te dis, « OK, là, mon projet dans la vie, c'est de m'accomplir, de me réaliser. » Attends, tu es en train de passer à côté de l'essentiel. Tu es déjà accompli en Christ. La question, c'est seulement, à quoi vas-tu consacrer ta vie dans tes différentes vocations pour servir la mission de Christ? Pour être cette saveur dans un monde sans saveur et confus. Tes vocations-là ne sont pas là pour que tu te réalises. Elles apportent de la joie. Il y a de la joie. Il y a de la joie à une journée de travail qui s'est bien passée. Puis les Écritures nous disent, réjouis-toi de ton travail. Mais qu'est-ce qu'il nous dit l'Ecclésiaste? Ça passe vite, ça. Ça passe très vite. Encore quelques jours, quelques heures, tu vas te présenter devant Dieu. Tu vas dire quoi? Oh, regarde, Seigneur, j'ai ramassé plein de cailloux pour toi. Regarde les beaux cailloux que j'ai ramassés sur la plage. Ou tu vas dire, Seigneur, je me suis consumé, littéralement consumé, à te servir dans toutes les vocations que tu avais placées devant moi. Et si tu es célibataire, peut-être que Dieu t'appelle au mariage. Gloire à Dieu! C'est vraiment glorieux. Ne le fais pas pour combler un vide, s'il te plaît. Fais-le parce que tu as la conviction que Dieu t'appelle à servir dans le mariage. Ça, c'est la bonne raison pour te marier. Mon seul conseil, prie pour que ton conjoint ou ta conjointe aime plus Jésus que toi. Ça, c'est la meilleure garantie. Et si Dieu t'appelle au célibat, bénis-moi, bénis l'Église, en vivant le contentement dans l'état où tu es actuellement. Peut-être que demain, Dieu t'appelle à te marier. Mais aujourd'hui, comme dans le mariage, Christ sera suffisant. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient devant toi avec toutes sortes de vécus personnels, Seigneur. Certains d'entre nous vivent leur vocation dans la souffrance parce que le contexte est difficile. Tout ce qu'on a dit ne fait pas disparaître des relations difficiles, des mariages compliqués, des célibats douloureux. Ça ne règle pas tout ça, Seigneur. Mais cette perspective et cette paix qu'il y a en toi, de savoir que c'est en toi, Seigneur, que je m'accomplis. C'est dans ma communion avec toi que je trouve le sens de ma vie. Seigneur, c'est tellement puissant. C'est tellement grand, c'est tellement glorieux, c'est tellement apaisant. Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles qui vivent dans un mariage qui est tellement imparfait que par moments, ils diraient, est-ce que je peux revenir en arrière? Est-ce qu'on peut effacer la cassette? Est-ce que je peux seulement être seul? Ou dans un autre mariage? Seigneur, viens les visiter par la puissance de ton esprit afin qu'ils trouvent en toi, dans leur identité, en toi, Seigneur, le contentement et la joie. De savoir que dans l'éternité, jamais, Seigneur, tu ne les divorceras. Jamais, Seigneur, tu ne les quitteras. Et que déjà, tu les accompagnes par la puissance de ton esprit. Donne, Seigneur, à celui qui vit un célibat difficile, donne-lui de trouver maintenant un contentement en toi, Seigneur, jusqu'à ce que tu répondes à un conjoint, une conjointe. Et donne à ceux, Seigneur, que tu appelles au célibat pour le royaume de Dieu, de trouver toutes les vocations où ils peuvent servir avec une liberté extraordinaire. Ô Seigneur, bénis ton Église, que ton Église soit différente, que ton Église porte un parfum de Christ. Et Seigneur, nous te rendrons toute la gloire parce que tu es merveilleux, Jésus. Oh, que tu es merveilleux, Seigneur. Amen.